C'est les informations de 10 heures. Félix-Antoine Parent, bonjour.
Hey, Anne.
Félix-Antoine, imagerie médicale en Outaouais, la PTS, salue l'intervention du gouvernement.
L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux se dit satisfaite des mesures mises en place par Québec pour prévenir la perte du personnel de santé qualifié au profit de l'Ontario. Ces changements surviennent après que le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais ait pris la décision de rapatrier le service d'imagerie médicale à l'hôpital de Hull. Finalement, le gouvernement a dû implanter des mesures incitatives comme une bonification de 10 % du salaire durant la période estivale et un montant forfaitaire de 22 000 $ par année au personnel s'engageant à effectuer 2,5 heures de travail additionnel par semaine. La représentante nationale en Outaouais pour la PTS, Christine Préjean, affirme que ces mesures sont bien accueillies par les membres du syndicat.
Ça fait effectivement plusieurs années qu'on décrit la situation et qu'on a des enjeux de pénurie de main-d'œuvre en fonction de l'exode de nos membres puis des professionnels qui traversent l'autre côté. Et en fait, ce qui a fait la différence, mais c'est l'état de crise, particulièrement là, à Hull, qui faisait en sorte que le centre de traumatologie aurait pu tomber en bris de service de soir et de nuit s'il n'y avait pas eu une action et une intervention du gouvernement.
Mme Préjean affirme toutefois que ces mesures seules ne seront pas suffisantes pour inverser la vapeur dans le système de santé en Outaouais de façon durable.
Il faut que les gens acceptent de fournir un 2 heures supplémentaires à taux régulier que leur horaire régulier temps complet. Donc, ça fait quand même augmenter leur nombre d'heures de travail. Il faut dire aussi qu'il y a un enjeu d'accessibilité à l'entente pour les gens qui travaillent à temps partiel. Donc, il y a des gens qui veulent conserver leur horaire à temps partiel. Ils ne pourront pas avoir droit à ce qui est à l'intérieur de l'entente.
Il demeure toujours un risque que la nouvelle entente provoque un mouvement à l'intérieur de la région où le personnel de santé des milieux ruraux pourrait se déplacer vers Gatineau afin de bénéficier des avantages.
L'entente, ce qu'elle devait adresser, c'était la crise. Donc, c'est sûr que ça fait naître des préoccupations pour nos périphéries, notamment l'hôpital de Papineau, Wakefield, Shawville et Maniwaki. Donc, c'est sûr que c'est dans les prochaines semaines et mois qu'on va voir si on ne pourrait pas se retrouver finalement avec du mouvement de personnel là, qui veulent migrer vers le milieu urbain pour pouvoir être visé par l'entente.
Il demeure toujours, en fait, le député de Gatineau, Robert Bussière, a refusé la demande d'entrevue à ce sujet.
Mm-hmm. Les pourvoiries du Québec souhaitent pouvoir prendre possession de leur terrain.
Des pourvoiries de l'Abitibi demandent au gouvernement de leur permettre d'acheter le terrain sur lequel ils y mènent leurs activités. Les acteurs du secteur s'accordent pour dire que ces enjeux concernent toutes les régions du Québec. Le président-directeur général de la Fédération des pourvoiries du Québec, Dominique Dugré, précise que qu'être propriétaire permet d'accéder à un statut plus avantageux auprès des institutions financières.
Quand on dit ça, là, saisonnier, terrain appartient pas, l'institution financière est très frileuse, voire elle ne veut pas financer des projets de pourvoirie. Quand on veut améliorer les infrastructures, quand on veut agrandir, quand on veut développer, ben là, ça prend des reins solides parce qu'il y a des institutions bancaires là, qui refusent carrément de financer des pourvoiries.
Il affirme également que si le gouvernement allait en ce sens, cela permettrait de revitaliser une industrie qui traverse une mauvaise période.
Dans plusieurs régions l'année passée, là, les feux, ça a été un coup dur. Il y en a qui ont perdu des sous. Les programmes de compensation n'étaient pas vraiment favorables à ce que les pourvoiries soient admissibles aux programmes de compensation. C'est en plus de la pandémie. Fait que, c'est des conditions qui sont pas faciles depuis plusieurs années. Fait que, c'est maintenant ou jamais. Ça va permettre un effort nouveau pour ces entreprises-là. On ne demande pas des sous. Ils demandent des conditions de développement pour créer encore plus de richesses.
De son côté, le président de l'Association des pourvoiries de l'Abitibi-Témiscamingue, Yves Boutillette, dénonce l'hypocrisie de Québec qui prétend vouloir venir en aide aux pourvoiries sans pour autant poser d'actions concrètes.
On est en train de faire de la vente de terrain à des résidents du Québec et à des non-résidents du Québec, monsieur tout le monde, mais on regarde les entreprises qui ramènent de l'argent dans la région puis qui ont créé des emplois puis où est-ce que les gouvernements se rabattent tout le temps sur le tourisme quand ça commence à aller mal en foresterie ou dans les mines ou quoi que ce soit. Ben, nous autres, ils nous disent non, là, vous autres, vous allez rester là puis crever.
La prochaine nouvelle, le coup d'envoi de la dernière fin de semaine du Festival des arts de la scène Val-Gatidois.
Ce soir donnera le coup d'envoi de... En fait, c'était hier soir, mais ça se poursuit ce soir et demain de la deuxième et dernière fin de semaine consacrée au Festival des arts de la scène Val-Gatinois au Lac-Sainte-Marie. Après l'hommage au Coloc et le Ben Racine Band les 26 et 27 avril dernier à l'église Saint-Nom-de-Marie, le festival accueillera 2 spectacles, soit ce soir et samedi. La responsable des communications du Festival des arts, Nathalie-Anne Kenney, affirme que le public a été jusqu'à présent très réceptif.
Tout va bien, les salles sont presque remplies, les commentaires sont positifs, les artistes sont contents de venir nous visiter dans notre village. Alors le festival se déroule très bien. Les spectateurs sont emballés, ils dansent, ils chantent pendant les spectacles. Alors nous, on est très contents de notre succès.
Sinon, il y a ce soir la surprise du festival et finaliste de l'émission Canada's Got Talent 2023, Geneviève Côté, qui occupera la scène. L'événement se terminera sur le coup avec le coup de cœur du comité de sélection demain avec l'artiste folk Bobby Balzini.
Un mot surtout pour inviter les gens, venez vous amuser. Geneviève Côté, c'est une surprise à découvrir. Et Bobby Balzini, ben, c'est vraiment un artiste de la région, pour ceux qui ne le connaissent pas, à découvrir.
L'accueil du public débutera dès 19h30 à l'église Saint-Nom-de-Marie au Lac-Sainte-Marie pour des spectacles prévus donc à 20h.
Très belle brochette d'artistes, évidemment. Yes. Ouais, beaucoup de gens qui se prononcent là-dessus dans
c'est
mon petit
mieux,
coin.
C'est tant mieux, parce que c'est 15e édition, tu sais, ce genre d'événement. Des fois, on arrive à des étapes. Puis là, c'est 15e,
hein?
Ouais. Ah. Puis je dis pas que c'est le cas, mais des fois, tu sais, on arrive à des moments où on se rend compte qu'il y a un essoufflement, où il faut revoir un petit peu la sauce. Et tu sais, des fois, on se promenait un petit peu partout. Là, c'est tout au Lac-Sainte-Marie à 8h. Avec effectivement des artistes, c'est très intéressant.
De renom.
Donc,
mm-hmm.
On va voir qu'est-ce qu'il y en est pour la suite des choses. On lui souhaite longue vie à ce festival.
À midi maintenant.
Il y a de l'itinérance à Maniwaki, on le voit. Mm-hmm. C'est même plus présent que jamais. Là. On ne remarquait pas vraiment ça avant.
Non, pour vrai, il y en a. Ouais.
Donc, puis là, c'est de savoir ils étaient où ces gens-là. Je parle avec des gens, on a l'impression que des fois, peut-être qu'ils squattaient l'ancien hôtel central qui a été démoli au profit des appartements.
Avec
là,
Devcor.
Le Devcor, c'est ouais. Ça. Donc, est-ce que ces gens-là squattaient, ils étaient où? Est-ce qu'ils sont plus nombreux? C'est beaucoup des gens qui viennent de Lac Rapide, là, de la communauté de Lac Rapide. Il y en avait un rassemblement de gens, un campement là, derrière le McDonald's. C'est des terrains qui appartiennent au Maxi. Ça a été nettoyé. Là, j'ai l'impression que... Parce que là, ils sont plus nombreux dans le site des Trois Clochers, donc il y a peut-être eu un petit déménagement. Oui. Là, il a rendu avec 5-6 tentes là, du côté désolé, là. Du site des Trois Clochers, c'est ça que je voulais dire, à Maniwaki. Donc, et ça fait pas du tout l'affaire de la ville là, qui dit, écoute, c'est nos terrains, là, c'est pas un endroit public, là, c'est pas un camping, là, c'est notre terrain. Et ça peut même, des fois, il y a des gens, surtout la gente féminine, je te dirais, là, qui sont moins à l'aise de marcher là le soir, des fois, ou quand ils sont seuls.
Il y a beaucoup de marcheurs, c'est un sentier pédestre.
Ben, c'est ça. Puis des fois, il y en a qui se font accoster. J'ai parlé avec des citoyens qui me disent, écoute, les gens qu'on rencontre sont pas méchants, sont pas violents, mais des fois, tu sais, ça peut nous rendre mal à l'aise d'aller là. Je sais qu'il y avait des gens qui nous disaient, il y a quelques mois de ça, qui avaient été victimes de vols, des gens de la rue Beaulieu qui se faisaient voler des équipements, des fois des choses qui attendaient dehors, sur leur balcon, peu importe, et qui les ont retrouvés à ce campement-là. Mmh. Mais bon, la mairesse souhaite qu'il y ait des actions qui soient prises. Elle trouve que ça ne bouge pas assez. Mais en même temps, il faut trouver une solution durable. Parce que si on fait juste démanteler le campement, ben, ils vont se ramasser ailleurs. Fait qu'il faut les aider, ces gens-là. Faut en prendre soin.
On va travailler. Ça dans ce moment-là.
Ben écoute, c'est la Sûreté du Québec, ça peut être le Centre d'amitié autochtone, ça peut être le CIS de l'Outaouais, ça peut être des organismes communautaires qui prennent en soin des personnes itinérantes, ça peut être... Il y en a des organismes, encore faut-il vouloir être aidé? On ne peut pas les forcer à obtenir de l'aide.
C'est
donc,
sûr.
Bref, on va en reparler, j'ai fait une entrevue là-dessus avec la mairesse Fortin hier, on en reparle à midi. Ben oui, c'est ça, à midi aujourd'hui. Puis je vous le dis tout de suite, à 15h, là, on va parler d'un type de fraude qui est... On a eu des signalements dans la région, c'est le type de fraude de grands-parents. C'est des gens ils se font passer pour un policier ou un avocat, ils vous appellent en disant
votre
petit-fils
est malade.
En fait, il est détenu
prison,
au poste, c'est ça. Ouais. Puis vous payez plusieurs milliers de dollars pour qu'il soit libéré. Puis les gens, sous la pression, ben, font des virements et c'est complètement faux. Ils se font arnaquer. Et il y a eu 4 signalements là, depuis une semaine à peu près à Maniwaki.
Dans la région aussi, Oui,
à Maniwaki, des gens qui ont signalé au poste de la Sûreté du Québec. Hey. Ça n'a pas fonctionné. Les gens qui ont signalé, eux, n'ont pas mordu à l'hameçon.
Okay.
Mais ceux qui ont mordu à l'hameçon. S'ils ne s'en sont pas rendus compte, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas signalé. Bref, on va vous tenir au courant, puis on va vous dire quoi...
Ne jamais donner vos informations personnelles, bancaires, etc., au téléphone, à personne.
À la limite, s'ils vous appellent, dites, est-ce que je peux prendre le numéro en note, puis je vous rappelle...
Exactement.
Ou toi, tu dis, vous êtes où, Sûreté du Québec?
Ils vont raccrocher.
Ils vont raccrocher ou rappellent, puis ce n'est pas les mêmes qui vont répondre. Puis là, ils vont dire, non, madame, vous étiez victime d'une fraude. Donc, ou monsieur, là, je dis madame, mais... donc, c'est ça, on va vous en reparler après-midi, entre autres. Là.
Merci, Félix-Antoine.